Il y a 50 ans, aujourd'hui, j'entrais dans une salle pour écouter un prédicateur gitan nommé Raphaël Duval. 50 ans, c'est quelque chose quand même. Je suis rentré dans cette salle et puis je me suis assis tout au fond parce qu'il n'y avait plus de place. Il y avait à peu près 600 personnes qui étaient là. Et voilà que pendant à peu près 20 minutes, Raphaël Duval, le gitan, a prêché d'une façon magistrale. Avec son vocabulaire, il cabossait de français, mais comme il disait, il ne cabossait pas l'évangile. Alors, ce soir, comme ça fait 50 ans que donc je me suis donné à Jésus, je voudrais vous raconter un petit peu d'où je viens, qui je suis. Voilà, donc mon nom c'est Michel Janton, vous le savez, j'ai 68 ans aujourd'hui, donc si vous faites le calcul, je me suis converti à l'âge de 18 ans. Et jusqu'à 18 ans, je vivais en Suisse avec mes parents, mon frère. On vivait dans une belle villa sur les bords du Léman, une villa que mes parents avaient construite eux-mêmes, et, mais qui était magnifique. C'était quelque chose de très beau. On avait une vie de famille magnifique, tout était bien, mais le diable est passé de bonheur. C'est-à-dire que nous avions un voisin, juste un peu en dessus de chez nous, qui s'est introduit très amicalement, il était très jovial, c'était un bon gros, comme on disait. Et ce monsieur, il s'est présenté comme voisin, donc mes parents gentiment l'ont invité à manger, donc il est venu manger chez nous avec sa femme, et puis au cours de la soirée, il a dit, voilà, ma profession, c'est, je suis astrologue, et si ça vous intéresse, je peux très bien regarder votre passé, votre avenir, et mon père était très intéressé par ça. Nous n'étions pas du tout chrétiens à l'époque, mon père était intéressé, il ne savait pas que c'était pas bien, ma foi, qu'est-ce que vous voulez. Alors, nous étions pourtant de religion protestante, de l'église nationale suisse. Donc voilà que il dit, bah, écoutez, pour commencer, je vais vous dire un petit peu votre passé. Alors il prend la main de mon père et puis il regarde les lignes de la main, puis il lui décrit des trucs qui lui sont arrivés. Mon père en tombait des nues, ensuite ma mère y a eu droit, mon frère y a eu droit, et puis ensuite je donne ma main, il regarde ma main, et puis il dit, oh là là, cette main-là, ah ben ça c'est curieux, il y a 10 jours, 15 jours, j'ai rencontré un artiste français qui a la même main que vous, c'est un chanteur. Et je dis, ah bon, moi j'étais gamin, je vois. J'étais jeune, très jeune. Je dis, ah bon, et comment il s'appelle? Il m'a dit, je ne me rappelle plus. Alors, je vais chercher mes disques, je lui montre mes disques. Il me dit, c'est celui-là. Et c'était Claude François. Alors, il me dit, oui, c'est celui-là. Écoutez, il est du je ne me rappelle plus la date, mais enfin, il est du mois de février. Vous devez être du mois de février. Je dis, oui, je suis du mois de février, le 5. Ah, ben, vous voyez, c'est curieux. Vous avez à peu près le même destin. Vous allez vous trouver sans être en train de voyager devant des foules, enfin ça m'intéresse beaucoup votre histoire, c'est assez captivant de trouver deux mains pareilles. Est-ce que je peux, puis il demande à mon père, est-ce que je peux prendre votre fils chez moi et puis aller un petit peu plus loin dans l'étude? Et mon père, flatté évidemment, lui dit oui. Donc me voilà parti chez ce monsieur 2-3 fois par semaine, et puis il étudiait d'après la date de naissance, la position des astres et tout, et puis il m'enseignait aussi ces choses. Il voyait que j'avais quelques qualités, quelques dons, disons, pour les choses paranormales. Donc voilà. Et puis un soir, il me dit, tout bouleversé, il me dit, écoute Michel, j'ai quelque chose à te dire. Normalement, je ne dis jamais cette sorte de choses aux gens, mais là, je peux te le dire parce que c'est tout à fait particulier. Je vois que tu vas bientôt mourir, mais ça sera pas vraiment une mort, parce que après cette mort, je te vois vivant. Excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne comme un idiot. Il me dit, après cette mort, je te vois vivant, et ma foi, c'est très bizarre, parce que je te vois devant des foules, et puis tu distribues des pièces en or. Tu distribues des pièces en or et tu dis aux gens, venez, c'est gratuit, prenez. Et puis la plupart des gens n'en veulent pas, se disant, ça doit être faux, et ils s'en vont dans les ténèbres. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, c'est ce que je vois, parce que ce que je ne savais pas, c'est que ce monsieur, il s'appelait Mario Pache, il était aussi un peu spirit sur les bords. Et il avait des visions, des choses comme ça. Donc, j'écoute ça, j'étais terrorisé, j'étais complètement terrorisé. Alors, je rentre chez moi, et puis, bon, la semaine d'après, je retourne vers lui, et puis on parle encore de toutes ces choses. Et le temps passe, et puis nous déménageons, nous voilà arrivés à dans un autre petit village assez loin de chez ce monsieur Pache, donc je pouvais plus y aller aussi régulièrement. Et ça a duré quelques années, et puis ensuite nous sommes remontés de nouveau dans notre village de Chèvres. Et puis là, un jour, un de mes copains déboule avec son vélo moteur, il me dit: Michel, j'ai entendu à la radio qu'il y a des gitans dans une salle à Lausanne, et c'est extraordinaire, c'est formidable. Puis alors, ce gitan a dit que il voulait aller en Belgique, mais que Dieu lui a dit qu'il fallait qu'il vienne en Suisse parce qu'il y a un peuple nombreux. Alors, moi, dans ma tête, je me suis dit: oula, si c'est Dieu qui lui a dit ça, sait-on jamais, hein, les gitans, faut qu'on y aille. Donc, c'est comme ça, par curiosité, que j'y suis allé. J'étais attiré par les choses, comme je vous dis, un peu surnaturelles, et ça m'a, cette introduction me plaisait bien, cette histoire de Dieu m'a dit qu'il fallait que j'aille en Suisse, tout ça. Bon. On arrive donc dans cette salle le soir, à 20h, et puis là, on était très étonnés de voir plein de gens, des Suisses, mais très, pas des Suisses comme on a l'habitude de voir, des Suisses très, comment dirais-je, électriques. Ils parlaient, il y avait une ambiance formidable là-dedans, et puis tout à coup, ils se sont tous assis parce que le gitan est arrivé sur la scène, et puis il a pris sa guitare, et puis il a commencé par dire Alléluia, non, non, il a dit Gloire à moi, et tout le monde a dit Non, Alléluia. Je dis: Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette bande de fous? Et puis, bon, il dit: Oui, vous avez raison, gloire à Dieu, que le nom de Dieu soit béni, que le nom de Jésus soit béni, je vais commencer par vous chanter un cantique. Et elle, voilà, en train de chanter un cantique à la tzigane. Ça m'a plu. Il jouait très bien, et en plus, il avait une voix un petit peu blues, un peu comme, vous voyez, un peu comme Henri Salvador. C'était très, très beau. Et puis après les chants, bon, il y a eu plusieurs chants comme ça, il a prié, et puis il a commencé à prêcher l'évangile. Il a pris un texte qui disait: Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, parce qu'il suit des préceptes humains plutôt que de suivre mes commandements. Et puis il a prêché là-dessus. Et moi, ça m'a bouleversé. J'avais l'impression qu'il ne parlait qu'à moi. Il disait: Oui, vous, les Suisses, bande d'hypocrites, vous avez une église qui est même l'église nationale, et vous avez Dieu dans la tête, mais vous avez rien dans le cœur pour le Dieu vivant. Vous feriez bien de vous donner un bon coup sur la tête pour que ça descende 30 centimètres plus bas dans votre cœur. Repentez-vous, bande d'hypocrites, vous allez à l'église à Noël, à Pâques, au mariage, et puis, qu'est-ce que c'est que ce christianisme? Vous n'êtes pas les chrétiens, vous êtes des imposteurs. Enfin, ouais, il tapait, c'était quelque chose d'extraordinaire. Bon. Et moi, ça entrait, j'étais très impressionné. Et à la fin, quand il a fait un appel pour que les gens se repentent, j'étais le premier à me lever, à aller devant, et je pleurais sur mes péchés, je pleurais d'avoir offensé Dieu. Et voilà. Donc, Raphaël prie pour moi, et puis, tout à coup, il m'appelle par mon prénom. Michel, je vois que tu vas chez un astrologue. Je dis: Comment vous savez ça? Il dit: C'est le Saint-Esprit qui me montre, tu vas chez un astrologue. Son nom est inscrit sur ton front, en noir. Il s'appelle Pache. Voilà, j'étais mort. C'est incroyable. Alors, il me dit: L'astrologie, c'est un péché. Et il appelle un des autres pasteurs qui était là pour lire un passage dans la Bible, dans Deutéronome, pour me montrer que c'était mal de pratiquer l'astrologie. Mais moi, je ne savais pas. Alors, il me dit: Alors, tu vas continuer? Je dis: Ah non, si c'est écrit dans la Bible qu'il faut pas, j'arrête. Il dit: C'est bien, je vais prier pour toi. Et il a prié pour moi, pour que je sois délivré de tous ces mauvais esprits qui avaient pris ma vie. Et j'ai été délivré. Mais vous savez, à l'époque, c'était pas la mode où on tombait par terre. On tombait pas par terre à l'époque, c'était pas la mode. Maintenant, c'est devenu une mode chez les pentecôtistes, je sais pas pourquoi, mais enfin bon. Moi, je ne suis pas tombé par terre. Par contre, j'ai été vraiment délivré. À tel point que je ne me rappelais plus la différence entre le signe du Verseau, du Taureau, du Bélier. Je savais plus les choses de base, C'était une délivrance réelle. Et puis après, je suis retourné à ma place, et puis voilà que ce giton continue en disant: Voilà, nous avons vécu la première partie de la réunion, maintenant on va vivre la deuxième. La première partie, c'est la plus belle. Les gens qui sont sauvés, parce que Jésus est venu pour sauver, mais il n'est pas seulement venu pour sauver, mais il est aussi venu pour guérir. Alors ce soir, que les malades s'approchent, et le Seigneur Jésus va les guérir. Moi, je lui dis, oh là là, oh là, il pousse un peu fort, qu'est-ce qu'il raconte là? Et puis, je vois une dame qui s'avance dans l'allée. Il y avait donc 300 personnes d'un côté, à peu près 300 personnes de l'autre. Il y avait une allée centrale. Elle s'avance dans cette allée, je la vois, avec un gamin tout tordu. Il avait la polio, il avait les bras retournés en arrière, les jambes qui lui remontaient dans le dos. C'était un monstre, quoi. Affreux, affreux. Et elle le dépose devant, il va avoir 10 ans, je pense. Elle le dépose devant Raphaël, le gitan, par terre. Et Raphaël lui dit, madame, moi je suis désolé, mais je peux rien faire pour votre enfant. Et au fond de la salle, je me dis, quel salaud ce mec. Ça aurait été un petit mal de tête, un mal de dents, bon, il aurait prié, puis hop, tout ça, ça passait. Mais là devant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit qu'il peut rien. Il dit, mais je connais quelqu'un qui peut quelque chose. Je dis, ah, hein, dans ma tête, hein. Je disais, ah, hein, il va appeler tous les pingouins, là, les pasteurs endimanchés qui sont sur l'estrade pour venir prier, puis comme ça, il sera pas responsable s'il se passe rien. Ah, oh, j'ai dit, quelle ordure de mec. Il dit, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose, c'est Jésus. Est-ce que vous croyez en Jésus? Puis la dame se met à pleurer, elle dit, oui, je suis catholique. Et lui dit, je m'en fous, moi, si vous êtes catholique. Puis Dieu aussi, il s'en fout si vous êtes catholique. Ce qui est important, c'est est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous lisez la parole de Dieu? Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus un jour? Puis elle dit, ben, tout à l'heure, quand vous avez fait l'appel à la repentance, je suis venu devant. Bon, alors, ça va, c'est bien, gloire à Dieu. Alors, il met un genou par terre, et puis il met sa main sur le gamin, et très tranquillement, il dit, esprit de paralysie, je t'ordonne au nom de Jésus, sors de ce corps. Amen. Et puis il regarde la femme, puis lui dit, allez dans l'allée, marchez, faites quelques pas. Alors elle s'en va, elle marche, puis comme elle marchait, elle venait comme si elle venait en face de moi, moi j'étais assis tout au fond. Elle avançait, je la voyais les épaules, vous savez, qui tombaient, elle pleurait, elle était mal, quoi. Et il lui dit, retournez-vous maintenant. Alors elle se retourne, et le gitan, il prend le gamin dans ses bras, et il le jette en l'air. Le gamin, il se déplie, je vous jure, j'ai vu ça. Le gamin, il s'est déplié et il est tombé sur ses deux pieds et il a couru dans les bras de sa mère. J'ai vu ça, j'y étais, je l'ai vu devant Dieu, je l'ai vu. C'était inouï. Tout le monde hurlait, criait, alléluia. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire, alléluia. Je criais alléluia avec, je pleurais, je riais, je savais plus où j'en étais. Après, il a prié pour les paralytiques. Il leur enlevait les béquilles, il les faisait courir autour de la salle. Les aveugles voyaient, les sourds entendaient. C'était une soirée extraordinaire que je n'oublierai jamais. Le 1er juin 1968. Puis en même temps, je me disais, mais c'est un homme comme un autre. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Donc, le soir, après, je rentre chez moi, j'avais ma petite fiancée avec moi de l'époque, et puis deux copains, on rentre chez nous, puis on en parlait dans le train avec beaucoup d'enthousiasme, et puis je rentre, je réveille ma mère, je réveille mon frère, je raconte tout ça, et le lendemain, le lendemain soir, mon frère, ma mère et moi, on va à la réunion avec d'autres, on était à peu près une centaine, j'avais passé des coups de fil à tous mes copains, mes copines, on est arrivé à peu près une centaine à la réunion. Et la même chose, les chants, les alléluia, beaucoup d'exubérance, vous savez, en Suisse, les gens sont pas exubérants, mais alors par contre, là, on se serait presque cru sur un terrain de foot. C'était, waouh, extraordinaire. Et puis, il prêche de nouveau l'évangile, il y a des gens qui se convertissent, après il prie pour les malades, et de nouveau, les malades guéris comme ça. C'était inouï. Et puis le troisième soir, j'y retourne encore, et de nouveau, la même chose. Et à la fin de la réunion, alors que il y avait un désordre dans cette salle inouïe, il y avait des gens debout sur les chaises, d'autres qui couraient avec leurs béquilles, avec les familles qui couraient derrière, les gamins, les mamas, les papas, tout ça, ça, c'était mais extraordinaire. Et puis moi, j'étais assis là au fond sur ma table, parce qu'au fond, depuis au fond, je voyais bien tout ce qui se passait, donc je restais toujours au fond. Et ma petite fiancée de l'époque, elle me dit, mais Michel, devant nous là, tu vois, le monsieur, il a deux béquilles, mais on devrait l'aider à aller jusque devant. Dans ce désordre, il peut pas y aller tout seul. Je dis, bon, d'accord, on va essayer de l'aider. Donc, on fait lever le monsieur avec ses béquilles, mais on s'est aperçu qu'en plus, il tremblait. Il avait la maladie de Parkinson. C'était très difficile. Et moi, j'avais pas des gros bras à l'époque. Et je me suis dit, on va le laisser tomber, ça va être pire encore qu'avant. Donc, j'avais un peu la trouille, je voulais renoncer. Et ma petite fiancée me dit, mais Michel, tu crois au Seigneur? Je dis, oui. Le gitan, il a dit, celui qui croira, voici les miracles qui accompagneront, ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris, c'est dans Marc 16, pourquoi tu le fais pas? Ça m'a paru vrai. Ça m'a paru logique, je me suis dit, après tout, pourquoi pas? Mais vous savez, c'était en un dixième de seconde, quoi, j'ai pas réfléchi, hein. J'ai mis mes mains sur cet homme et j'ai dit, comme le gitan, quoi, je fais la même chose. Esprit de paralysie, au nom de Jésus, je t'ordonne de sortir de cet homme. Et puis, je lui ai enlevé les béquilles, le bonhomme, il a failli tomber, mais heureusement, il y avait une colonne qui était là dans la salle, et il est allé s'affaler sur la colonne, mais moi, ça m'a vexé, j'ai dit, mais pourquoi tu me réponds pas? Oh Dieu, pourquoi tu me réponds pas? Pourquoi tu réponds au gitan, là? Il a le nez au milieu de la figure comme moi, mais vous savez, ça s'est très vite dans ma tête. Ça a décuplé mes forces, j'ai pris le bonhomme à bras le corps, j'ai pousser les gens, je dis, tirez-vous. J'ai sorti le bonhomme dehors, et là, il y avait des escaliers qui descendaient. Je l'ai mis devant les escaliers, et j'ai dit, Jésus, je ne peux pas te prouver plus que j'ai foi en toi. Maintenant, je t'ai prié, j'ai fait ce que tu as dit, j'ai mis mes mains sur lui, au nom de Jésus, alors maintenant, moi, j'ai fait mon boulot, fais le tien. Et j'ai poussé le bonhomme dans l'escalier. Et le bonhomme s'est mis à descendre les escaliers, et à remonter les escaliers, et il était complètement guéri. Waouh! Il y avait des gens qui nous avaient suivis pour regarder qu'est-ce que ce grand dadais, moi, allait faire avec ce pauvre paralytique. Donc, moi j'ai dû m'asseoir parce que tout d'un coup, quand j'ai réalisé la folie que j'avais faite, parce qu'il faut jamais faire un truc pareil, hein, quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, je me suis senti un peu mal, j'ai dû m'asseoir sur les escaliers. Et puis, les gens, ils ont couru vers Raphaël pour lui dire, Raphaël, il y a un jeune homme là-bas, il vient de prier pour un paralytique qui était guéri. Et Raphaël dit, amenez-le-moi. Alors, je vais vers lui. Puis il me dit, bon, écoute, il y a beaucoup de malades, il y a beaucoup de boulot, alors on va se partager la tâche. Toi, tu prends les gens de gauche, moi, je prends les gens de droite. Il n'a pas cherché à savoir plus. C'était un homme qui était guidé par Dieu. J'avais pas ma carte de pasteur, j'étais même pas baptisé d'eau, rien. Simplement, ça faisait 3 jours que j'avais donné mon cœur à Jésus. Donc, me voilà en train de prier pour les malades. Et je me souviens toujours, cette personne qui était malade était aveugle. Et je prie, et j'enlève, j'avais vu comment Raphaël faisait, il mettait un peu de salive sur ses pouces, et il mettait les pouces sur les yeux des malades, qui étaient donc atteints de cécité. Et puis, il commandait à l'esprit de cécité de partir. Donc, je fais la même chose. Puis, j'enlève mes pouces. Je dis, alors, vous me voyez? Et puis, la personne me dit, oui, mademoiselle, je vous vois. Je dis, non, il ne me voit pas. Donc, je recommence. Je ne savais pas que Jésus avait fait aussi ça. Je ne savais pas qu'il avait dû s'y reprendre à 2 fois avec un aveugle. Mais ça me paraissait logique. Il ne fallait pas que j'abandonne, quoi. Donc, je repris de nouveau. Et puis, là, il me voit parfaitement. Alors, je dis, vous avez des enfants? Il me dit, oui, j'ai mes enfants dans la salle. Je dis, faites-les venir. Alors, c'était la première fois qu'il voyait ses enfants. Mais je ne vous dis pas la joie. Non, c'est quelque chose de... Avec les mots, on ne peut pas dire. C'était extraordinaire. Et puis voilà, les gitans sont partis dans une autre ville, je les ai suivis, partout où ils allaient, je les suivais. Et puis un jour, ils nous ont dit, Raphaël m'a appris, il m'a dit, écoute, moi je pars en France, je rentre chez moi, et il faut que tu ailles à l'église. Alors il me donne l'adresse d'une église, et pendant qu'il était en train de me donner l'adresse de l'église, je me suis dit, j'irai jamais dans ce machin, c'est une secte, j'irai pas. Et puis voilà, ils sont partis, et puis moi, j'ai continué à témoigner, à parler de Jésus partout, c'était formidable, je priais pour les malades étaient guéris, je me rappelle, il y avait une jeune fille, elle vomissait ses selles, et il lui avait déjà enlevé 10 cm d'intestin, mais ses intestins, ça marchait pas, elle vomissait ses selles. Donc, sa mère me demande de prier pour elle, je prie pour elle, guérie, impeccable. Donc, voilà, je continuais, et puis c'était fantastique pendant une année, comme ça. Mais en même temps, voilà, quoi, je vivais un petit peu, comme on dit, un pied sur la route, un pied sur le trottoir. C'est-à-dire que, j'allais toujours dans les boîtes de nuit, je fumais toujours, voilà, quoi. Et puis je voulais pas aller à l'église, ça, il n'était pas question. Je me disais, attends, comment ça se fait que il y a toutes ces églises là dans le coin, j'ai jamais entendu parler que Jésus guérit, qu'est-ce que je vais aller mettre mes pieds dans une église, non, il y a que Raphaël qui est un serviteur de Dieu, les autres c'est des clowns. Vous voyez, j'étais terrible, enfin je suis encore terrible, mais c'est bien d'être entier. Mais une année après, j'étais quand même un petit peu découragé parce que c'était pas génial. Donc je vais manger, je me rappelle c'était à La Placette, c'était un magasin qui existait encore à l'époque à Lausanne, et là je mangeais, on se retrouve entre copains, puis il y a un copain qui arrive qui me dit, dis-donc, t'as vu, il y a des affiches chez Raphaël qui est de nouveau à Lausanne. Je dis, waouh, j'y vais. Et je fonce, je prends l'adresse, c'était la même adresse, et puis le soir, me voilà à La Réunion. Donc j'assiste à La Réunion, c'est toujours pareil, les miracles et tout, bon. Puis à la fin, je vais vers Raphaël, quand tout le monde se disperse, je vais vers lui. Puis j'ai dit, salut Raphaël. Il me dit, ah, oh, comment tu vas? J'ai dit, ben, pas fort, tu m'avais dit que ce serait la paix, la joie et le bonheur, ben, c'est pas tout à fait ça. Alors il me regarde, alors évidemment, j'étais en jean, avec une chemise complètement ouverte jusqu'au nombril, ben, j'étais débraillé, quoi, j'avais pas l'air d'être un saint sanctifié, n'est-ce pas? Il me dit, mais tu vas à l'église? Je dis, non, je vais pas, j'ai pas envie. Il dit, ben, voilà ton problème, tu veux pas aller à l'église, tu te nourris tous les jours tu manges. Je dis, oui, ben pourquoi? T'as besoin de nourriture spirituelle, mon fils. Si tu vas pas à l'église, tu vas crever. Voilà, alors tu fais ce que tu veux. Oula, j'ai compris. Le dimanche après, j'étais à l'église. Et c'était formidable. C'était Raphaël qui a prêché, il a parlé sur le baptême, quelque temps après j'étais baptisé. Voilà, c'était la vie qui commençait. Et puis, quand je suis sorti des eaux du baptême, il y a eu une personne qui a prophétisé disant que j'allais devenir serviteur de Dieu, que je voyagerais dans le monde entier prêchant l'évangile et tout. Puis moi, je savais même pas qu'il y avait des dons de prophétie. Je connaissais rien, mais rien. Et je demande à la belle-mère de Raphaël, qui s'appelle Camélia, j'y demande, mais qu'est-ce que c'est? Elle a lu ça où dans la Bible? Elle me dit, mais mon fils, c'est pas dans la Bible, c'est une prophétie, puis c'est pour toi. Je dis, comment c'est pour moi? Ben oui, tu seras un serviteur de Dieu, mon fils. Tu prêcheras l'évangile dans le monde entier. Alors moi-même, je dis, ben alors ça compte dessus, puis bois de l'eau. Hein. Pour moi, les pasteurs, les évangélistes, tout ça, c'est des mendiants. Ils sont toujours en train de chercher le pognon. Non, non, il n'est pas question que je fasse ça. Donc, voilà. Et le temps, la vie passe, et tout ça. Un jour, je tombe malade, mais grave. On a diagnostiqué comment on appelle ça? Une gangrène au pied. Et mon pied devenait noir et ça faisait des douleurs terribles et on me donnait des pommades, des machins. Ça me faisait rien du tout. Et un de mes amis, Fritz Blaser, et un Suisse allemand, je sais pas s'il vit encore, il me dit, écoute, Michel, moi je veux une convention de Zigane à Metz, je sais pas comment on dit. Si tu veux, je t'emmène. Je dis, ben, ouais, volontiers. Donc, on ouvre la partie à Metz. Et puis là, sous le chapiteau, il y avait un prédicateur qui s'appelle Vikram Seth, et il prie pour les malades. Il dit, il y a combien de malades ce soir? Levez la main. Il y en avait tellement. Il dit, oh là là, je ne veux pas imposer les mains à tout le monde, il y en a trop. Il y avait plus de 3000 personnes là sous le chapiteau. Alors il dit, mettez votre main là où vous souffrez et je vais prier en langue pour vous. Et le voilà qui se met à parler en langue. Et tout à coup, je sens comme si on me jetait une pierre sur le pied, mais ça m'a fait mal. Je dis, bon, cette fois, il est foutu. Et j'avais une botte de soutien, donc j'enlève cette botte pour voir, j'enlève la chaussette pour voir, et mon pied était blanc. Plus de gangrène, plus rien. Je me vois toujours, je me suis levé avec ma chaussette et ma chaussure, et j'ai couru sur l'estrade pour rendre témoignage devant tous ces gens. Je pleurais, j'étais tellement touché. Et le lendemain, le pasteur Lekossek, au culte, a fait une prédication pour dire, il y a des gens qui sont appelés au ministère et qui refusent de servir Dieu. Maintenant, c'est le moment d'obéir. Tu es appelé, réponds à l'appel de Dieu. Et là, je me suis senti concerné, j'ai donné ma vie, j'ai décidé, voilà, bon, ben, si tu veux que je sois serviteur de Dieu, ben bon, je serai serviteur de Dieu. Voilà. Et puis, c'est comme ça que c'est parti. Je me suis inscrit pour aller à l'école biblique. Alors j'ai commencé par l'école biblique des Gitans, après j'ai fait l'école biblique des Assemblées de Dieu, après j'ai fait les Nogent-sur-Marne, donc trois écoles bibliques, mais j'étais jamais satisfait, j'étais pas content, je trouvais que c'était, enfin Nogent-sur-Marne c'était quand même un petit peu mieux qu'ailleurs, mais bon, ça me plaisait pas trop. Et je me suis inscrit pour travailler dans une œuvre qui s'appelle Teen Challenge, qui était dirigée, vous savez, c'est une œuvre qui était créée par David Wilkerson aux États-Unis pour aider les drogués. Et c'était le pasteur Bill Williams, un Américain, avec son épouse Joanne, s'occupait de cela à Paris. Alors je me suis inscrit là et ils m'ont pris. Et j'ai travaillé pendant 7 ans dans cette mission, c'était extraordinaire. Là, j'ai appris plus qu'à l'école biblique, hein, je peux vous dire. On était vraiment avec les gens, les vrais gens, les gens de la rue. C'était, oh là 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 là, c'était un travail extraordinaire. Et puis, ensuite, Dieu nous a donné, à mon épouse et moi, un appel pour créer une communauté. Donc, nous avons créé une communauté. C'était tout petit au départ. On a fait plus grand, un peu plus tard. Et puis voilà, maintenant, bah, ça continue et ça marche de mieux en mieux. Et nous bénissons Dieu parce que maintenant je suis vieux, mais je suis heureux. Je suis heureux parce que je connais Jésus, parce que je sais qu'il règle toujours les problèmes, souvent au dernier moment. Quand on croit que tout est foutu, hop, ça y est, la solution arrive. Il faut jamais se décourager, mes frères et sœurs. Ça fait 50 ans maintenant que je connais Jésus. Alors Raphaël, il avait une petite phrase, il disait toujours, vous savez, on peut regretter de s'avoir marié, mais on ne peut pas regretter d'avoir connu Jésus. Alors moi, je ne regrette pas de m'être marié et je ne regrette pas d'avoir connu Jésus. Connaître Jésus, c'est la plus belle chose dans la vie. C'est tout ce que je vous souhaite, c'est que vous fassiez la paix avec Dieu, que vous marchiez avec lui. Alors oui, maintenant, vous savez, ce vieux astrologue-là, le diable, il sait des choses, il connaît des choses. Et cette espèce de vision qu'il avait donnée à M. Pache au sujet de moi devant des foules distribuant des pièces en or, ben c'est ce que je fais en fait. Je suis devant des foules immenses, partout, dans plus de 70 pays, j'ai voyagé, et je place la parole de Dieu devant les gens. Et la parole de Dieu, dans la Bible, il est dit que c'est de l'or éprouvé. Et je leur dis, voilà, prenez, c'est gratuit, le salut c'est gratuit, c'est un cadeau de Dieu. Et c'est vrai que y en a qui prennent, mais il y en a beaucoup qui s'en vont de nouveau dans leurs ténèbres, pensant que c'est faux. Alors vous voyez, les gens sont séduits par l'astrologie parce que c'est une science qui, je vais pas dire que tout est vrai, non, mais il y a quand même pas mal de vrai dedans. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça nous est interdit à nous autres chrétiens. C'est interdit. On n'a pas le droit d'y toucher. Dieu a écrit tout ça dans le ciel, mais il veut pas qu'on regarde ça. Parce que nous avons péché et nous n'avons plus le droit de toucher à ça. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. J'ai beaucoup de choses à dire, mais je veux pas vous faire un cours contre l'astrologie. Simplement, je veux dire que ceux qui y croient, ben voilà, faut les respecter parce qu'il y a il y a une certaine rigueur, il y a une certaine, voilà, on peut dire qu'il y a des bonnes choses dedans, mais pour nous qui sommes croyants, c'est strictement, absolument, complètement interdit. Donc on obéit, puis on regarde même pas l'horoscope dans le journal. Voilà, d'accord? Alors, ceci dit, ben voilà, quand même, le diable sait des choses. Alors, il peut, n'est-ce pas, vous tromper, vous manipuler. C'est pourquoi je vous dis tout le temps, il faut lire la Bible. Parce que si vous lisez la Bible, vous vous imprégnez de la vérité et le mensonge ne pourra pas avoir d'effet sur vous. Voilà pourquoi je vous dis de lire la Bible. Bien, ben, je crois que je vais m'arrêter là. Ça fait donc 50 ans aujourd'hui même. 1er juin 1968, 1er juin 2018, ça fait 50 ans. Et je loue Dieu, je remercie Dieu. Ma mère s'est convertie, mon frère aussi. Mais j'ai emmené plein de gens à Jésus. Je sais même pas combien j'en ai emmené. Mais c'est une merveille, des miracles. Mais il y en a eu partout où je suis allé. Et c'est tellement merveilleux. Dieu est bon. Il faut le prendre au mot. Il faut le prendre au mot. Si Dieu a dit quelque chose, c'est vrai, on peut faire confiance et faire ce qu'il dit, il fera toujours, il sera toujours avec vous. Il faut oser le prendre au mot. C'est dommage que dans les religions, on vous ait détourné en vous disant, il faut prier Marie, ou Saint Joseph, ou Saint Machin. Non, priez Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que la Bible nous dit de faire. Alors, tant pis si ça plaît pas, monsieur le curé, faites ce que la Bible dit de faire. C'est votre vie, c'est votre éternité. Alors, faites ce que la Bible dit de faire et ne faites pas ce que les religions vous racontent. Toutes les religions se réclament de la Bible, mais est-ce que vous la lisez, vous, votre Bible? Voyez? Vous écoutez simplement votre prêtre, votre pasteur, mais vous ne faites pas attention à ce que la Bible dit. Faut lire la Bible, c'est important. Voilà, je vais arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur pour ces 50 années passées dans la paix et dans la joie. Merci aussi pour les épreuves, les difficultés qui m'ont aidé à grandir. Merci Seigneur pour cette belle journée du 1er juin 2018 dans laquelle tu me combles de joie répondant à mes prières. Je te remercie Seigneur Jésus. Veuille bénir mes frères et sœurs qui écoutent ce message enregistré et permet qu'ils puissent partager aussi avec d'autres sur Internet. Amen. Alors, je vous redis encore, vous vous rappelez, je vous ai dit, je voulais pas être pasteur parce que je voulais pas être un mendiant. Mais quand même, il y a tellement de souffrances, mais tellement de souffrances dans ce monde, et on peut rien faire s'il n'y a pas d'argent. Là, je connais des villages en Afrique qui sont dans une misère épouvantable. Vous, ça vous coûterait pas grand-chose de faire un don de 10 euros. Si vous tous qui venez sur Révélation Bible qui dites Amen, 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 si vous tous vous donnez 10 euros, on va pouvoir sauver des milliers de gens de la famine au Burkina Faso. Je vous en supplie, faites un don. Faites-le. Dieu vous bénira. Faites-le. Voyez, ça y est, je suis devenu un pasteur mendiant. Ben, tant pis. Tant pis si vous pensez que je suis un pasteur mendiant. Moi, je peux pas rester comme ça les deux pieds dans le même sabot et puis dire, oh ben, Dieu a qu'à s'occuper des pauvres, ça nous regarde pas. Non, ça nous regarde. Il faut qu'on fasse quelque chose. Vous n'allez pas me dire, vous n'êtes pas 10 euros pour l'œuvre de Dieu. Allez, que Dieu vous bénisse. Au revoir. J'espère que je vous ai pas choqué. Au revoir.